Le faiseur de monde présente le nouveau cycle de Yom, livre 1er, Angebashan, épisode 4, 5, 6. Un Mengintai a deux ennemis, celui qui lui fait face, qu'il est censé espionner ou assassiner, et celui qu'il a dans le dos, les attaches, les liens, les amis, la famille, que l'on va pouvoir utiliser contre lui si jamais on veut le faire chanter et si on a connaissance de ce lien. Là, ce n'était pas difficile. Andrzej s'était officiellement mis en ménage. Il avait abandonné la tour Batangas pour la tour Novgorod. Il avait donc été obligé de demander l'autorisation au clan Novagorski de s'installer là, et pas n'importe où. Car en même temps, Yanzi avait fait la même démarche. Elle aussi, au moins deux. Chacun ayant mis sur la table le loyer qu'il payait pour avoir un, je n'oserais pas dire appartement. Disons, un simili de pièces, au moins deux, dans le quartier Europa. Cela faisait donc au moins deux clans qui savaient. Et de toute façon, ils ne s'en étaient guère cachés. Ils se fréquentaient, ça se voyait. Quelqu'un qui se renseignerait sur lui l'apprendrait rapidement. La seule lueur d'espoir qu'il put avoir, ce fut de se dire que justement, cela faisait de lui quelqu'un qu'on ne risquait pas de prendre pour un Mengintai. Après tout, il était là depuis 3 ans, pas une vague, pourquoi est-ce qu'on l'aurait soupçonné? Mais allez savoir. L'enveloppe qui venait de le faire basculer dans une nouvelle vie ne comportait malheureusement pas d'argent, juste des instructions qu'il avait lues, apprises, avant de détruire le papier. Ça parlait du clan Enchli. Bien sûr, il le connaissait. La fameuse enveloppe qu'il avait reçue 2 semaines après le départ d'Alexei dans les jardins était particulièrement explicite. Il y avait un peu d'argent, et l'expérience lui avait montré que ce n'était pas pour lui, qu'il en aurait besoin pour graisser les pattes le long de la route. Il y avait le fameux sésame, le papier de citoyenneté, et puis une carte d'Angebashan, avec dessus, au marqueur, écrit 5. Il avait cherché à l'intérieur une petite croix, ou regardé ce qu'il pouvait y avoir dans la colonne 5, sans tout de suite comprendre ce que cela voulait dire. Puis, en la dépliant complètement, il avait trouvé quelque chose qui était passé inaperçu. Son billet, évidemment, pour prendre le bateau et arriver à Angebashan, dans 5 jours. Le message était clair, il avait 5 jours pour se familiariser avec la ville. Et, se rappelant ce qu'il était, il était évident que ce n'était pas seulement se familiariser avec le plan, les passerelles, les tours, les quartiers. Il fallait aussi qu'il apprenne assez rapidement les clans, leurs activités et les liens entre eux. 3 jours avant son départ, il avait graissé suffisamment la patte pour se trouver un appartement chez les éboueurs. Pas question d'aller plus loin dans la recherche d'informations, cela aurait pu paraître douteux. Il connaissait simplement la ville sur le bout des doigts. N'importe où, pour aller n'importe où, il était capable, dans sa tête, de dresser le trajet, pas seulement les immeubles et les passerelles, mais aussi de savoir quel quartier il allait traverser et à quel clan ils appartenaient. C'est ensuite que Don Heng lui expliquera les quartiers interdits, à telle heure ou tel jour, les règles, mais en tout cas au moins il avait la base. Ensuite, eh bien, Don Heng lui fut une grande aide, mais il suffisait d'aller se trimballer dans n'importe quel tripot pour entendre les gens discuter les uns sur les autres. Poser discrètement la question au barman en indiquant un groupe, et l'on saurait à quel clan ils appartenaient, ce qu'ils faisaient là, et en creusant un peu ce que faisait le clan lui-même. Andrzej avait ainsi très vite découvert qu'il existait 2 types d'informations sur Angebashan. Le premier type était d'une facilité déconcertante à avoir. Qui appartenait à quel clan contrôlait quel tour, quel quartier, et comment ce clan gagnait de l'argent. Bon, j'exagère. Pour certains, l'appartenance à un clan était gardée secrète, mais ils étaient très peu nombreux. Et comme sur les quelques 1 700 000 habitants dans les tours, il y en avait plus de 300 000 qui faisaient partie des clans, il était assez facile de faire la cartographie. Le deuxième type d'information, c'était comment on gagne de l'argent précisément. Ainsi du Niwashi par exemple. Bien sûr, il avait les 3 lignes de navires qui allaient des jardins vers la ville. Et on savait, Andrzej, encore mieux que les autres, que tout ce qui poussait dans les jardins passait par ses entrepôts. Mais globalement, il gérait pratiquement 20% de la nourriture de la ville. Pas uniquement pour les richissimes qui pouvaient se payer ce qui sortait des jardins. après tout, puisqu'il faisait venir de la nourriture, pour nourrir les paysans qui lui donnaient toute cette bonne nourriture locale, il en apportait en grand, et, globalement, où qu'on soit dans la ville, un bol de riz sur cinq pouvait être considéré comme ayant été fourni par le Niwashi. Contrairement à beaucoup d'habitants de la ville, voire la plupart, voire presque tous, Andrech, en faisant le tour des jardins, avait vu, lui, les débarcadères avec les navires qui arrivaient et qui déchargeaient toutes les marchandises que l'on trouvait en ville et qui venaient de l'extérieur. Toutes ces palettes de sacs de riz. Mais d'où venaient-elles réellement? Où étaient-elles achetées? Secret. Il suffisait de creuser un peu pour tomber sur un mur de silence. Même là où on ne l'attendait pas. Ainsi, pour le clan Viran Prenom, les éboueurs. Tout pouvait paraître transparent. On savait exactement ce qu'ils faisaient. Mais combien étaient-ils payés par les clans pour enlever les ordures? Combien étaient-ils payés par l'ensemble des clans pour enlever les ordures, pas seulement dans le quartier que chaque clan maîtrisait, mais autour, entre guillemets, dans l'eau? Car l'eau n'appartenait à aucun clan. L'eau était, d'une certaine manière, neutre. Et la décharge Siantva? Bien sûr, on y envoie tous les déchets d'Angebashan, mais visiblement, de pas mal d'autres villes sur le continent. Ça doit rapporter gros. Plus tous les miséreux là-bas, qui sont, peut-être, ou pas, payés par le clan, ou qui doivent, en tout cas, payer le clan, pour avoir le droit de gratter dans les immondices, et récupérer des éléments qui pourront, peut-être, être réutilisés ou recyclés. Mystère. Et les cadavres, que l'on récupère la nuit, où vont-ils? Combien y en a-t-il? Qu'est-ce qu'ils en font? Mystère. Mystère, qui est, et qui devait le rester. Car commencer à poser des questions, là, vous faisait soupçonner. La simple curiosité finissait forcément par s'effacer devant la prudence. Sinon, c'est que vous étiez potentiellement un Mengintai, et ça, ce n'était pas bon qu'on le sache. Donc, on pose la question, innocemment, on pose une question innocente, on réfléchit bien aux questions qu'il ne vaut mieux pas poser. Et si l'on a une réponse évasive, on ne s'accroche pas, et on ne repose pas la même question à quelqu'un d'autre, le soir même, au même endroit. Et peut-être même pas au même endroit quelques jours plus tard, plus jamais au même endroit. Et peut-être même pas ailleurs le jour même, attendre plusieurs jours. Angebashan gère tellement d'argent pour le monde entier que le monde entier doit y avoir ses Mengintai et que le monde entier cherche aussi à garder secret toutes les petites magouilles, tous les trafics qui sont gérés depuis cet endroit. Ça avait donc pris des mois à Andrech pour récupérer toutes ces informations. Puis, les choses s'étaient faites presque naturellement. Il ne cherchait plus à les avoir. Il n'avait plus aucun contact venant du Marine d'Honneur. Pas de demande, pas de petite enveloppe, plus rien. Il avait payé sa dette. Ce qu'il avait fait pour Alexei avait apuré son compte. Alors c'est plus par curiosité, par habitude d'écouter tout ce qui se disait dans les différentes langues qu'il maîtrisait, et aussi de tout mémoriser et de faire des liens qu'il avait accumulé cette connaissance qu'il avait sur Angebashan. La langue, surtout. Rare, à part ses employeurs, étaient ceux qui savaient qu'il était trilingue. Il s'était choisi une langue, le tamoul, car ça lui permettait de tendre l'oreille quand des étrangers ou des gradés parlaient entre eux, en anglais, ou au contraire, quand on avait affaire à ceux qui faisaient du commerce, du trafic, ou aux petites frappes, qui les trois quarts du temps venaient du continent et parlaient cantonais. Il s'était un petit peu mis au salmigondi moitié indonésien, moitié malaisien, mais préférait afficher le tamoul. Ça rassurait aussi les gens de se dire qu'il n'était pas totalement fondu dans le moule, et donc peut-être qu'il n'était pas bien dangereux. Il avait rapidement découvert que certains clans avaient des quartiers à des endroits bien précis en ville liés à leur activité. Ainsi, le quartier Nishima, qui devait être face à l'endroit où l'on pouvait, le plus facilement possible, embarquer tout ce qui venait du grand débarcadère à l'extérieur des jardins pour importer toute la nourriture et tout le reste du matériel. De même, pour le clan Viran Prenom, qui avait mis la main sur Nuderan, le quartier au nord-est, celui qui était face à Siantva. D'une certaine manière, on pouvait presque penser que c'était la même chose du quartier des Ariandricanum, presque au centre, là où il y avait les tours les plus grandes, celles qui permettaient d'avoir la vue la plus large sur la ville, mais où, surtout, les tours étaient protégées des tempêtes, puisque placées au centre de la ville, protégées par toutes celles qui étaient autour. Eh bien, c'était aussi le cas pour le clan Anschli. Le quartier Backwards était au nord-ouest de la ville, presque symétrique par rapport à New Deran, si l'on traçait une ligne nord-sud. C'était l'endroit de l'île, l'endroit de cette patatoïde, où la ville était la plus proche de la mer, où la couronne de jardin était la plus fine. C'est par là que passait le câble secret avec tous les réseaux. Ah, bien sûr, un tout petit peu plus loin, du côté de New Deran, il y avait eu un tel câble qui remontait vers l'isthme. Seulement, lors du grand tremblement de terre, cette partie-là avait été sectionnée. Le seul câble qui maintenait Angebashan en lien avec le monde entier passait donc par ce quartier, Backwards. Et c'est là que le clan Anschli avait mis la main sur toutes les infrastructures informatiques, dont on raconte que certaines sont même encore au sec, dans des sortes de bunkers, loin, dans des sous-sols, au niveau de ce qui était déjà à l'époque des sous-sols au moins 2 ou au moins 3, ce qui correspondrait aujourd'hui au moins 6 ou au moins 7. On raconte beaucoup de choses sur les sous-sols, des rumeurs urbaines que l'on trimballe d'un quartier à l'autre, d'un clan à l'autre, sur telle tour qui aurait un passage secret permettant de descendre dans des salles que l'on aurait gardées au sec et qui, à l'époque, étaient au moins 1 ou au moins 2, c'est-à-dire aujourd'hui au moins 5 ou au moins 6. Il ne fait nul doute que de telles salles existent. Après, les fantasmes les remplissent de tripots, de richesses incommensurables, de salles de torture. Globalement, si elles existent avec certitude, c'est bien dans le quartier de Backwards, et elles sont simplement remplies de serveurs et de matériel informatique. À l'origine, le clan Anschli a été monté par des Coréens, et puis ils se sont un peu mélangés, et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de nationalité. En tout cas, ils ont gardé une chose, l'axe sur l'informatique, la recherche, le développement. Le cybercrime, ils laissent ça à d'autres, d'ailleurs dans des quartiers pas très très loin du leur, avec des tours dont on peut remarquer qu'elles sont reliées à celles de Backwards par des câbles en hauteur. Non, eux, ce ne sont pas des cybercriminels, eux ce sont des geeks, des chercheurs. Tous azimuts, depuis les virus les plus dangereux, que les fameux cybercriminels dans les tours reliés par câbles aériens vont pouvoir utiliser, après les avoir achetés fort cher, jusqu'à des recherches pour des firmes tout à fait officielles, du bug tracking, et souvent des add-ons pour différents logiciels, dont ceux qui rapportent le plus, les jeux avec immersion virtuelle. Ainsi de toutes les recherches autour de l'environnement Virzem. Virzem, un socle de base pour permettre à des gens de développer des jeux en immersion virtuelle. La guerre a fait rage entre les éditeurs de jeux et les éditeurs de ces socles qui allaient devenir une sorte de nouvel operating system comme, il y a longtemps, il y avait eu Microsoft avec son Windows. Virzem, c'était plus de 60% des jeux basés sur son socle. Un incontournable. Que ça soit pour ceux qui cherchent à le craquer ou pour ceux qui, au contraire, cherchent à en utiliser les ressources gratuitement, sans payer les péages, pour que leur jeu soit moins cher, et évidemment, ceux qui sont là pour le faire évoluer, chasser les bugs et rajouter des add-ons. Et bien sûr, Anschli faisait tout ça. En même temps. La société Virzem n'était pas dupe. Pas question d'ouvrir ses codes à ce genre de société qui, d'un côté, pouvait vous aider, et de l'autre, allait vous pomper les ressources ou vous pirater. Mais on savait qu'Anschli avait des dizaines de chercheurs autour de Virzem, sans qu'on sache exactement donc dans quel domaine ils étaient. Le côté bon, le côté mauvais, la crête entre les deux, floue et dangereuse. Ça, Andrech le savait, c'est quelque chose qu'il avait appris assez rapidement. Ce qu'il y avait dans son enveloppe allait lui demander plus de recherches. C'est logique, on ne demande pas à un Mengintai simplement de collecter les ragots dans les tripots. Il aurait néanmoins préféré avoir un peu plus d'informations, ou des choses un peu plus précises. Non seulement il se mettait en danger, et ça bousculait un petit peu sa vie, mais franchement, ce qu'on lui demandait n'était pas clair, et les pistes de recherche ne l'étaient guère non plus. Il n'y avait que ces quelques mots sur le papier à l'intérieur de l'enveloppe. Anschli, Virzem, Révolution, Peter. Donc, un type qui s'appelait Peter était sur le point de coder quelque chose, ou quelqu'un avait créé un logiciel ou un add-on nommé Peter qui allait révolutionner Virzem. C'est moche. Andrej venait de se mettre en ménage. Cette histoire le mettait potentiellement en danger, lui et sa fiancée Yanzi, alors qu'il espérait pouvoir continuer une vie riche d'évolution sociale. Le Maïdanar lui remettait la main dessus, et après le premier choc, au lieu d'en pleurer, il découvrait que ce rôle de Mengintai lui plaisait. Intellectuellement, comme un chien de chasse, il venait d'être lancé sur une piste, et ça l'excitait. Ce jour-là, à l'hôtel, Andrej n'avait pas vraiment la tête à son travail. Depuis 3 ans qu'il le faisait consciencieusement, c'est la première fois qu'il y réfléchissait. C'est la première fois qu'il regardait un petit peu toutes les actions de ses journées. Préparer les petites choses qui font la différence dans les grands hôtels pour les visiteurs d'Angebashan. Donner des ordres pour la mise en place d'éléments qu'il n'avait même pas les moyens de se payer lui-même. Pour telle chambre, des chocolats, ailleurs des fruits exotiques frais, ou des fruits frais, mais plutôt européens, ou des fleurs, ou au contraire, surtout pas de fleurs, à cause du rhume des foins. 3 ans à donner des ordres, à traduire des instructions, avec des numéros de chambre, avec des codes pour ces différents produits, sans qu'il ne les ait jamais associés à ce que cela représentait réellement. En 3 ans, si peut-être 4 ou 5 fois avait-il eu la chance de récupérer un fond de boîte de chocolat non entièrement mangé par le client. Et c'est seulement aujourd'hui qu'il se rendait compte du côté un petit peu surréaliste de son travail, sans parler du manque d'évolution. Y avait-il pensé auparavant? Pas sûr. Il y a un petit peu moins de 2 ans et demi, il avait été heureux d'avoir une petite augmentation, parce qu'il avait parlé de son changement de chambre, et que le fait de moins sentir les ordures, puisqu'il passait du -3 au -2, avait eu un intérêt pour son patron. Sinon, rien. Ce n'est pourtant pas l'amertume qui lui fit faire des choses un peu de travers toute la journée. Non, simplement, il avait la tête ailleurs. Dans d'autres circonstances, il aurait été intéressé d'apprendre les jours suivants ce que ces petits mélanges auraient eu comme conséquence pour les clients, pour l'hôtel, et évidemment pour lui. Si jamais ça avait des conséquences, il l'apprendrait bien assez vite. Oui, une drôle de journée, car le soir, il n'eut pas envie de rentrer rapidement. Pourtant, depuis 3 jours, le fait d'avoir quelqu'un qui l'attendait à la maison, ça lui avait changé la vie. Mais là, les choses tournaient, retournaient dans sa tête, il revoyait ses 3 dernières années, il regardait la ville pour la première fois, avec des yeux nouveaux, un peu comme ces immigrants au Japon qui, pendant des années, sont passés au même endroit, et puis qui un jour, par hasard, lèvent le nez de leur téléphone et se rendent compte qu'au coin de la rue, il y a un petit hôtel pour un dû local. Ce soir-là, Andrej regardait vraiment Angebashan pour la première fois. Il se souvenait d'avoir été impressionné il y a 3 ans. Mais il y a 3 ans, il arrivait, il n'avait pas vraiment eu le temps de regarder. Mélange de joie, de cette évolution sociale, de peur, de différentes impressions, en regardant les tours et en essayant de trouver sa place dans cette fourmilière. Aujourd'hui, c'était différent. Cela faisait 3 ans qu'il traversait les passerelles, prenait les bateaux, connaissait les tours, les quartiers, mais jamais il n'avait pris le temps de s'arrêter pour regarder tout ça, avec un regard extérieur. La ville lui semblait belle. Cette débauche de lumière, des néons et des ampoules partout. Certes, en électricité, ça coûtait cher. Chaque tour avait ses éoliennes, et surtout les derniers étages, sur la face sud, étaient couverts de panneaux solaires. Quand on était juste au sud, dans les jardins, qu'on regardait vers le nord, on voyait tous ces reflets bleus sur les derniers étages des tours, là où la lumière arrivait, avant que l'on plonge dans l'ombre, à l'intérieur des tours, parfois tellement resserrés, qu'un jet de pierre permettait de casser la vitre en face. Il se souvient, quand il avait fait la tournée des jardins, avoir regardé la ville, au loin, et ses reflets bleus. Il portait comme un regard neuf, sur tout. Par exemple, les fameux balcons. Évidemment, au début, on avait fait les passerelles entre les immeubles, mais ensuite, au niveau plateforme, on avait créé des sortes d'excroissances autour des tours, de 2 à 3 mètres, pour que les gens ne soient pas obligés de traverser le bâtiment, et puis le contourner. Non seulement, au début, on avait peur de passer à l'intérieur des immeubles, à cause des quelques tours qui s'étaient effondrées, et il y avait tellement de monde, c'était embouteillé. Pour les boutiques, ce n'était pas bon. Finalement, c'était surtout des galeries commerciales qui traversaient les immeubles. Pour se promener ou pour aller d'un point à un autre, on prenait les fameux balcons. Pas de rambarde, évidemment. Ça aurait été trop cher. On y circulait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Du moins, sur les 3/4 de la largeur. Au début, il se dit que tout le monde avait dû respecter le sens. Puis certains avaient certainement essayé de vouloir remonter à rebrousse-poil parce que c'était plus court. Longer le mur? Non. À un moment ou à un autre, il serait tombé sur quelqu'un qui l'aurait bloqué. Alors il passait par l'extérieur. On avait fini par rajouter des échelles, car il y avait souvent des gens qui tombaient à l'eau. Aujourd'hui, c'était habituel. Environ 2 personnes pouvaient passer de front, dans le bon sens, laissant à peine de place pour les acrobates qui, en équilibre au bord de l'eau, essayaient ainsi de prendre un raccourci, espérant ne pas se retrouver à la baille. Autant pour réfléchir et continuer à regarder la ville que pour se noyer au milieu de la foule, il retourna à un endroit où il avait ses habitudes les premiers mois, Glass Avenue, l'endroit touristique par excellence. 2 clans, amis, au lieu de simplement faire des passerelles entre les immeubles, avaient complètement couvert une ancienne ruelle avec du béton et tous les 2 ou 3 mètres avec des grandes plaques de verre qui permettaient de laisser de la lumière en dessous. C'était l'endroit touristique idéal. Il y avait un monde fou. Au bout d'un moment, il avait même fallu déblayer les boutiques qui se mettaient un peu à la sauvette au milieu, car on avait toujours peur que ça s'effondre à cause de la foule. Et puis, c'était dangereux. Le verre, qui ne laissait plus passer grand-chose en termes de lumière, tellement il était rayé, était toujours bien glissant. Quand il y avait de la pluie, régulièrement, des gens tombaient. L'autre attraction pour les touristes, c'était de passer en dessous. Au début, il n'y a qu'un ou 2 capitaines de la ligne de bateau 3 qui avaient osé. Du coup, maintenant, c'était une sorte de monopole admis. Pour passer en dessous, il n'y avait que la ligne 3. Il n'y avait pas d'arrêt. C'était un raccourci pour passer d'un endroit à l'autre de la ville. C'était surtout une attraction. Il lui fallait se rendre à l'évidence. Il l'aimait, cette ville. Il y croyait à son ascension sociale, même si en 3 ans, il n'avait pas été très très loin. Mais là, ça y est. Il était en ménage. Il avait un 2 pièces, au moins 2, dans un quartier plutôt calme. Comment avait-il pu oublier ses racines? Et surtout, sa dette au McDonald's. Sa préoccupation principale, ce soir-là, c'était de protéger Yann. Et la faire déménager allait être compliquée. Déjà, qu'ils s'étaient battus pour avoir les 2 pièces qu'ils avaient depuis à peine 3 jours, repartir dans les magouilles pour essayer d'acheter, de vendre, d'échanger. Compliqué. Le plus simple, ça aurait pu être d'échanger avec son père. Partager l'appartement avec Don Heng ne posait pas de problème à Andrech. Son amitié était tellement profonde pour le vieil homme, et puis pour l'odeur, après tout, il y a quelques jours, lui aussi était dans le quartier des éboueurs. Le problème, c'était pour elle. Elle ne pouvait pas aller dans ce quartier-là. Tous les efforts qu'ils avaient faits, 1 pour qu'elle puisse sortir de ce quartier, 2 pour qu'elle puisse quitter le moins 3 pour passer au moins 2, bon, à la limite, ça c'était temporaire. Mais vu son travail, l'odeur, non, ce n'était pas possible. Enfin, à Angebashan, tout se vend, tout s'achète, tout s'échange. Il trouverait bien moyen d'échanger un 2 pièces, au moins 2, pas trop mal, contre une petite pièce, ailleurs au moins 2, et lui retournerait prendre un moins 3, quelque part chez les éboueurs. L'échange était suffisamment intéressant pour l'autre, il pourrait trouver. Se séparer après 3 jours, c'était triste, mais de toute façon, il allait passer ses soirées entre les buvettes et les tripots pour son enquête. Il n'allait plus beaucoup se voir, alors après tout, la priorité c'était de la protéger. Sur ses bonnes résolutions, il rentra, tard, pour lui expliquer. Elle avait l'air résignée, elle l'écoutait en silence, puis elle lui posa simplement cette question. L'enveloppe, ils l'ont glissée sous la porte pendant la nuit. C'est donc qu'ils savent où tu es. Oui. Ils savent donc que j'existe. Ils savent où je suis. Fin de la discussion. Où qu'elle aille, si jamais elle voulait la retrouver, il la retrouverait. La conclusion était évidente. Elle ne voulait pas partir. C'était net. Il s'était mis en ménage avec une femme de tête. Il fallait assumer. Et puis, elle ne voulait pas le quitter. Elle voulait faire face au danger avec lui. Ne se rendant pas compte qu'elle était en danger, mais surtout qu'elle le mettait en danger. Il faudrait juste être un petit peu plus prudent. Qu'elle prenne un petit peu plus l'habitude de regarder si des gens passaient régulièrement dans la boutique ou si elle était suivie. C'est à cette occasion qu'il découvrit qu'elle le faisait déjà. Plutôt mignonne, bien en vue dans sa galerie commerciale, elle avait plusieurs fois eu affaire à des hommes, disons, colons. Elle avait donc appris à se défendre et surtout à ouvrir l'œil. Lui, évidemment, aurait dû en prendre de la graine. Mais, dans un premier temps, il était focalisé sur son rôle de chasseur, sans forcément réfléchir aussi qu'il était peut-être gibier. Son 5e jour en couple commença donc un petit peu comme tous les autres, mais déjà, l'esprit était différent. Il se reconcentra au travail. Pas question de le perdre. C'était sa couverture, c'était son gagne-pain. Ça l'a presque fait rire que les petites bourdes qu'il avait fait la veille lui soient remontées, un peu pour lui taper sur les doigts, sans plus. Il avait eu une journée, un peu la tête en l'air. C'est la première fois que ça lui arrivait depuis 3 ans. On avait passé l'éponge. De ce côté-là, tout allait bien. Il commençait tôt le matin et finissait un peu après le milieu d'après-midi. Ça lui laissait le temps pour attaquer sa deuxième journée. Elle allait être compliquée. Non seulement il fallait faire la tournée des tripots et des buvettes sans avoir beaucoup d'argent en poche, car l'enveloppe malheureusement n'en avait pas, mais en plus, il fallait faire attention à ne pas se faire repérer comme chasseur, donc tourner, passer d'un endroit à l'autre, pas question de laisser une ardoise. Déjà, il se retrouvait dans des quartiers qu'il n'avait pas l'habitude de fréquenter, et si en plus, il ne pouvait pas régulièrement aller au même endroit, il fallait payer rubis sur l'ongle. Une partie de ses maigres économies était passée dans la transformation des deux chambres vers le petit deux pièces. De nouveau, il allait falloir emprunter. Enfin, son patron n'avait rien dit. Il connaissait le nouvel état matrimonial, d'une certaine manière, et la dernière fois qu'Andrej avait emprunté, 7 mois après son arrivée, pour passer du moins 3 au moins 2, il avait mis 6 mois à rembourser, mais ses paiements avaient été réguliers. Son patron lui avait donc effectivement fait une avance et avait rajouté un peu. Encore heureux que personne ne savait que ce n'était pas pour monter son couple, mais plutôt pour aller boire des bières et en offrir à droite à gauche dans les tours qui jouxtaient le quartier de Backward Huts. Car c'est une chose qu'il avait appris très jeune à New Pondichéry. Quand on cherche une étoile dans le ciel, il ne faut pas la regarder, il faut regarder juste à côté. Quand on cherche une information, au début, on fait la même chose. On tourne tout autour, on collecte, et c'est uniquement une fois qu'on a identifié ce que l'on cherche que l'on peut aller droit au but. De toute façon, Andrej s'aperçut rapidement que le fait d'aller traîner dans les tripots de Backward Huts eux-mêmes allait être compliqué. C'était plutôt du haut de gamme. La plupart de ceux qui y allaient là-bas étaient rémunérés pour faire le code pour le clan Anschli, ils avaient les moyens. C'est donc plutôt dans les tripots tout autour que l'on discutait un petit peu, chacun regardant avec envie ce qui se passait de l'autre côté de la passerelle. On discutait beaucoup. Ça avait au moins cet avantage, les informations circulaient vite, il n'y avait qu'à tendre l'oreille, ouvrir une bière ou deux, et on apprenait beaucoup de choses. C'est ainsi qu'Andrej, en moins d'une semaine, put se faire une idée de la base, de ce que l'on disait, et donc de ce que l'on savait, facilement sur Anschli. Toujours évidemment, avec la nécessité de croiser les informations, et de prendre certaines avec des pincettes. Globalement, plusieurs dizaines de milliers d'informaticiens étaient payés à la tâche, pour cracher du code. On parlait de 70 000. Malgré sa richesse, toutes les tours du quartier de Backward Huts n'y suffisaient pas. Seuls ceux qui étaient très bien payés et qui faisaient du très bon boulot, ou les étrangers de passage, habitaient sur place. Les autres étaient finalement des travailleurs à la tâche, un peu comme Andrej, vivant là où ils pouvaient et venant travailler tous les jours. Évidemment, eux aussi, de temps en temps, avaient envie de boire une bière. Mais bien sûr, on leur avait interdit de faire ça dans les buvettes et les tripots juste autour du quartier, et comme ils n'avaient pas les moyens de le faire à l'intérieur du quartier, eh bien généralement, comme Andrej, on les voyait arriver le matin et repartir le soir. C'était pourtant une bonne piste. Ils pouvaient essayer d'en suivre un ou deux, au hasard, et de voir où est-ce qu'ils allaient le soir pour se détendre. Les autres, on ne les voyait pratiquement jamais. Ils ne sortaient jamais du quartier, ils travaillaient en vase clos, ils vivaient sur place, la plupart du temps des étrangers, qui venaient pour quelques mois, pour un travail, puis qui repartaient. Sans doute quelques milliers, qu'on apercevait à peine. C'est que, traverser le quartier de Backward Huts, on y restait guère. Il y avait des gardes, partout, qui vous suivaient de l'œil. Et si jamais on ne travaillait pas ici, il ne faisait pas bon s'attarder. Oh, évidemment, s'ils n'allaient pas interdire le fait de traverser le quartier, ça aurait obligé plein de monde à faire un grand détour, si le quartier était au milieu de leur trajet. Mais bon... C'était pas un endroit où il fallait batifoler. Mieux valait essayer de récupérer l'information à l'extérieur. Le reste, ma foi, déondit. Rapidement, Andrej comprit qu'il fallait réellement repérer ces fameux informaticiens et aller boire une bière avec eux. En tout cas, l'information clé, c'était que le socle Virzem était un gros pourvoyeur d'emplois. On disait que si effectivement il y avait bien 70 000 informaticiens, entre 5 et 10 000 faciles travaillaient sur le sujet. Forcément, il y avait des cadors, les as, qu'on ne voyait jamais, qui devaient avoir les appartements, tout là-haut, dans les belles tours, mais aussi des soutiers, des pisseurs de code, ceux justement qui arrivaient le matin, repartaient le soir, et qu'Andrej se promit de suivre discrètement pour essayer de s'en faire des amis loin du quartier. Ses connaissances informatiques étaient pratiquement nulles. Il avait du mal à imaginer ce que c'était que Virzem et ce que les gens pouvaient coder autour, surtout en si grand nombre. Mais il saurait bien se faire expliquer, et de toute façon, c'est bien connu, quiconque a un tout petit peu de savoir aime bien l'étaler, ce serait facile de flatter un petit peu ces pauvres airs tout en bas de l'échelle, qui se sentiraient valorisés, de pouvoir expliquer à un inconnu qui visiblement n'y connaissait rien, tout ce qu'il pouvait savoir. Ça, Andrech l'avait appris très vite à New Pondichéry. Une bière, deux bières, et les gens ne s'arrêtent plus sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils font, et surtout sur ce qu'ils savent, si ils ont l'impression d'épater la galerie et d'avoir en face d'eux quelqu'un qui leur est inférieur. Restait à repérer quelques cibles, puis les approcher, car évidemment, il en fallait plusieurs pour croiser les informations. Il avait fallu moins d'une semaine à Andrech pour tirer les ficelles de cette histoire et comprendre ce qu'il avait à faire. Pour la suite, ce sera sans doute plus long. Mais la chance lui avait souri. Il avait trouvé une cible assez facile à reconnaître. Un arabe qui faisait facilement 2 mètres. Le suivre dans la foule sans se faire repérer, c'était simple. Il suffisait de regarder la tête qui dépassait toutes les autres. Prudence, prudence. Pour Andrech, cela prit 3 jours pour repérer où il habitait. Puis, pour traîner un peu dans le quartier, le soir, en essayant de le reconnaître dans un tripot. 3 jours, puis la chance lui sourit, non pas dans un tripot, mais dans une gargote. Bon, s'il est en train de manger, peut-être qu'il boira moins de bière, ça coûtera moins cher. Une très bonne opportunité. Par contre, pour Andrech, ça allait aussi lui coûter un repas. Allons-y. Manger à côté, essayer vaguement de lancer la discussion, pas simple. Et puis il ne s'agissait pas brutalement d'apparaître tous les soirs au même endroit, ça aurait pu être louche. Il chercha donc une autre cible, pendant 2-3 jours. Puis, ayant repéré celle-ci, revint vers le premier. De nouveau un repas, un échange de sauce pour le bol de riz, et la discussion s'engage. Enfin. Le type s'appelle Idriss. Effectivement, c'est ce que l'on appelle vulgairement un pisseur de code. Il n'a pas l'air très enclin à raconter ce qu'il fait, soit qu'il soit vraiment tout en bas de l'échelle, et, dans ce cas, peu enclin à parler de ses dures journées de labeur, soit au contraire, qu'il soit un petit peu plus haut dans la hiérarchie, avec une bonne idée de ce que peut être la confidentialité des informations qu'il détient. En tout cas, les choses n'avancent pas beaucoup. Il a l'air d'être célibataire, plutôt renfermé, renfrogné même. Il a l'air d'être très bien tout seul, n'a pas très envie de pousser la conversation plus loin. Andrech décide de laisser tomber. Trop risqué. Son autre cible habite le quartier du Kelor Varas, du clan Mingushi. Eux sont plutôt dans la prostitution. C'est un quartier très animé, on y croise souvent des gens qui viennent de toute la ville, se promener là, s'y retrouver, une nouvelle tête. Plus facile de passer inaperçu et de tomber dessus par hasard et de chercher à créer des liens. 2 semaines qu'Andrech a reçu la fameuse enveloppe jaune. Il s'attend d'un moment à l'autre à être recontacté par un représentant du Maïdanar qui viendrait lui demander où il en est. Et enfin, voilà que la chance lui sourit. Le type a ses habitudes au bar Le Shangsu. Et ce soir-là, c'est la fin du mois, son ardoise est vide, mais visiblement, son gosier est encore sec. Moyen pour Andrech de lui offrir une bière. La discussion s'amorce donc sous les meilleurs auspices. Fidèle aux règles de l'ignare intéressé, Andrech va donc gentiment valoriser son nouvel ami, un slave de nom de Yuri, pour lui faire raconter tout ce qu'il peut. Le premier jour, Andrech n'apprendra pas grand-chose. Oui, il travaille pour Enchli. Oui, c'est une sorte de pisseur de code, pas tout à fait dans les limbes, tout de même. Il fait des choses un minimum intéressantes, mais sans plus. Par contre, le deuxième soir, banco. Persuadé d'avoir trouvé un ami qui payait des bières sans avoir besoin de se faire prier, voilà que notre ami Yuri amène un de ses collègues de bureau, Jan Ewin, un coréen. Et ça tombe bien, et c'est un bavard, et beaucoup plus intéressant. Il travaille sur Virzem. Là, c'est facile pour Andrech de faire les yeux ronds, d'expliquer qu'il sait vaguement que c'est un jeu en réalité virtuelle, en immersion, et laisser ses deux amis s'exclaffer et commencer à lui expliquer les choses depuis le socle, depuis la base des connaissances, apprenant ainsi à Andrech parfois même des détails qu'il ignorait, qui lui sont d'une utilité totalement nulle. Mais bon, après tout, il le sait aussi. Pour trouver la pépite, il faut beaucoup orpailler, il y aura beaucoup de déchets. Et ainsi, plusieurs soirs d'affilée, Andrzej va apprendre comment ça se passe dans les coulisses du clan Enschli. Pas très intéressant par rapport à ce qu'il cherche, mais intéressant pour cerner ses deux nouveaux amis, qui sont les deux clés qui vont lui permettre potentiellement de remplir sa mission. Bizarrement, enfin, on lui expliquera avec le yin et le yang. Les deux personnes qu'il a en face de lui sont à peu près au même niveau dans la hiérarchie du code. Mais l'un travaille sur Virzem, pas l'autre. Et la hiérarchie n'est pas dans le sens de ce qu'il imaginait. D'où l'image du yin et du yang. Chaque composant, gros à un endroit, est petit à l'endroit où l'autre est gros. Plus on monte dans la hiérarchie, plus effectivement on est reconnu, à l'extérieur du groupe qui travaille sur Virzem. Quand on est dans Virzem, deux personnes au même niveau de la hiérarchie, celui qui est chez Virzem va être déconsidéré, simplement parce qu'il est payé autant et qu'il travaille beaucoup plus. 9 heures par jour au lieu de 8 heures, et 6 jours par semaine au lieu de 5 jours. Un véritable bagne. Certains n'en voudraient pour rien au monde. Alors que d'autres, même plus élevés dans la hiérarchie en dehors du groupe Virzem, cherchent à se faire embaucher quitte à redevenir des piscodes pour du Virzem. Simplement parce que pour monter dans la hiérarchie, sur Virzem, il faut commencer tout en bas. Et quand on commence à atteindre un certain niveau, alors là, c'est l'inverse. On est les rois. Les maîtres. Jan Ewin n'est déjà plus un pisseur de code. Plus vraiment. Il fait quelque chose de beaucoup plus important. Andrzej ne saura jamais si c'est réellement aussi important que ça. Mais en tant qu'ignorant, il fait les yeux ronds et semble béat d'admiration. Il n'a pas bien compris ce qu'on lui a expliqué. Alors, il va passer toute une soirée à entendre ces explications dont il n'a que faire. Jan Ewin fait de l'optimisation de code pour les textures. Waouh ! Dit comme ça, ça a l'air formidable. On lui explique pourtant que ça fait la différence entre un bon et un mauvais jeu. Un jeu que les joueurs vont apprécier et un autre qu'ils vont trouver cheap, plutôt mal fait. Jan Ewin a 6 mois pour compacter 11 000 lignes de code. Moins il y a de lignes de code, plus ça va vite. Et donc plus le rendu est facile, moins il faut un ordinateur puissant pour pouvoir jouer. C'est donc un enjeu majeur pour les éditeurs de jeux. Et les intelligences artificielles peuvent difficilement remplacer la notion de perception humaine. On finit donc toujours par demander à un humain. L'exemple qui lui a été donné a marqué Andrzej. Ça, il va le retenir. Ils sont attablés juste à côté de la fenêtre qui donne sur une rigole avec vue sur l'immeuble en face. Tu vois la boutique Darklin, juste en face. Ouais. Bien. Maintenant, regarde tout au fond, tout là-bas. Cette espèce de boutique avec les néons verts. Est-ce que tu arrives à voir ce qu'il y a écrit? Bah non, trop loin. Eh bien voilà, toute la clé est là. Imagine que ce qu'il y a écrit là-bas, c'est Darklin. D'ici, tu ne le vois pas. Il faut que tu te rapproches à une certaine distance. Tu vas commencer à distinguer, peut-être pas les lettres, mais au moins les formes. Et puis à un moment, assez précis, tu vas pouvoir essayer de deviner ce qu'il y a écrit. Recule maintenant un tout petit peu. De loin, Darklin. Tu vois à peu près le bon nombre de lettres. Imagine qu'au lieu du R de Darklin, tu mets un I. Évidemment, Darklin, ça n'a rien à voir. Mais si jamais tu es suffisamment loin, tu ne verras pas la différence. Et, du point de vue du code, ça veut dire que tu écris uniquement la barre du R et que tu économises ce qu'il y a à côté. Voilà la clé. La clé, c'est de détecter ça et de savoir surtout à partir d'où quelqu'un va pouvoir lire Darklin et non pas Darklin. Tu vas donc faire plusieurs versions de cette enseigne au néon, une Darklin, l'autre Darklin. Darklin te permet d'économiser sur le code, tu l'as optimisé. Darklin, il faut simplement le faire apparaître suffisamment tôt pour que jamais aucun joueur ne puisse voir écrit Darklin. À partir du moment où il s'approche trop, tu remplaces par Darklin. Mais tant qu'il était loin, tu as optimisé. Moi, je ne fais pas ça pour une enseigne au néon. Je fais ça pour tout ce que l'on appelle les textures. T'as entendu parler du jeu Master Z ? Non. Ah, pourtant, il est connu, hein. Un jeu de zombies. Un petit peu inversé. Au lieu de jouer les gros bras avec fusil à pompe, qui tirent sur tout ce qui bouge et surtout les zombies, et justement, tu joues un zombie qui essaie de survivre. C'est dans un environnement plus ou moins industriel, cyberpunk, des lumières un peu glauques. Les textures sont hyper importantes. Le sol, les murs, la rouille, ça peut prendre beaucoup de code. C'est très important, la texture, pour rendre l'ambiance. Mais c'est aussi très important de pouvoir l'optimiser, pour que le jeu ait de la pêche, et qu'on puisse y jouer sans avoir des machines surpuissantes. Voilà. Mon boulot, c'est ça. Pour un jeu particulier, sur Virzem. Je ne travaille pas sur Virzem directement, je travaille sur un jeu. Mais je fais partie des quelques 20 000 codeurs de la branche Virzem. Là, peut-être que Yuri lui avait donné un petit coup de genou sous la table. Un chiffre précis, j'ai senti comme une gêne. Enfin, j'allais pas laisser passer ça. Tant pis, il avait fait une bourde, il fallait que je tire le fil. 20 000 ? Waouh ! Sur 70 000 ? Et là, de nouveau, Jan et Huynh se lâchent. Non, 75, enfin c'est pareil. J'imagine, recoup de genou. Bon, va falloir attendre un peu plus de bière et peut-être attaquer le saké pour que Yuri se lâche un peu et laisse Jan et Huynh me balancer les informations. Visiblement, lui, je pourrais obtenir tout ce que je veux. C'est l'autre qui est là pour le brider. Le 18e jour, au matin, de nouveau une petite enveloppe jaune. Ça promet, si c'est ce genre de communication, qui leur permet d'échanger. Un code, simplement. Accroché à la fenêtre, un tissu d'une certaine couleur, pour dire là où il en est. Blanc, rien. Jaune, peut-être une piste. Orange, quelque chose de sérieux. Rouge, venez me parler. Bon, tissu jaune, coup de bol. Yann en a un. Il l'accroche à la fenêtre. De toute façon, la ligne 2 passe juste en dessous. Impossible de repérer ou d'essayer de repérer qui va jeter un coup d'œil à ce genre de détails. C'est le 4e jour, et décidément, la chance lui sourit. Yuri, ce soir-là, fait des heures supplémentaires. Il faut absolument attirer Jan et Huynh ailleurs, les séparer, pour avoir de l'info. Alors, Andrej l'invite dans le quartier Europa. Laissons tomber le Shang Tsung. Allons boire dans un quartier plus calme. Europa, par exemple. Les boutiques ferment le soir, c'est plus tranquille. Et c'est parti. Même pas besoin de pousser sur l'alcool. Heureusement. Là où ils sont descendus, c'est plutôt du whisky que du saké bas de gamme. Ça aurait fini par faire très cher. Enfin, c'est le début du mois, Andrej a été payé, et visiblement, Jan et Huynh aussi. Il a même eu une prime. Il étale ses compétences. Son histoire de texture, en fait il part d'une base à partir des 18 blocs. Là, Andrej n'a pas besoin de faire semblant pour ouvrir les grands yeux. On rentre réellement dans les arcanes de Virzem, et son compagnon de boisson se fait un plaisir de lui expliquer. Imagine un ballon de foot qui flotte dans l'air. Pour avoir une vue immersive, tu dois mettre des caméras. Combien est-ce que tu mets de caméras sur ce ballon pour avoir une vision de tout ce qu'il y a autour? Sur Virzem, tu en mets 18. Une en haut, une en bas, et deux rangées de 8, légèrement décalées les unes par rapport aux autres. Tout ce que l'on fait, c'est un travail par rapport à ces 18 blocs. Puis ensuite, on décline. J'ai 125 textures à optimiser. Je suis à la moitié de ma mission. Sur 6 mois, j'en ai fait 3 et j'ai déjà fait 8 blocs. Bah, t'es en retard alors. 8 et 8, 16. Non, ça ne marche pas comme ça. Là aussi, tu optimises. Au bout d'un moment, sur certains blocs, tu vas retrouver du travail que tu as déjà fait sur d'autres. Normalement, sur la première moitié, on est soit à 6, soit à 7. Là, je suis à 8, ça veut dire que je vais pouvoir finir avant 6 mois. J'ai déjà touché une partie de la prime pour l'avance que je vais leur faire gagner. Et tu peux être certain qu'ils sont sur deux, hein, parce que, radins comme ils sont, pour filer une prime d'avance à l'avance, c'est le cas de le dire, c'est réellement que je n'ai pratiquement aucune chance de me planter. Bon, je suis pas mauvais, mais c'est quand même bien d'être repéré ainsi. Je vais pouvoir grimper assez vite. C'est à ça aussi que tu reconnais le futur avancement que tu peux avoir, quand il commence à lâcher du pognon. Parce que quand t'es en bas de l'échelle, tu grattes à mort. Yuri t'a expliqué, hein. Quand tu passes dans la branche Virzem, tu passes de 40 heures à 54 par semaine, sans augmentation. Et ensuite, il faut grimper. Quand tu vois comment ils sont capables de cracher pour les mecs qu'on croise jamais, qui eux travaillent réellement sur le cœur de Virzem, ceux qui vivent dans le quartier, et même qui ont des fois des appartements entiers dans les tours, là-haut, dans des étages proches de la direction. Alors là, tu te dis, il y en a certains, bon, faut pas rêver, ça sera jamais pour nous. Souvent, ils les font venir de l'extérieur. c'est-à-dire. Eh ben, c'est des missions. Les mecs, ils sont payés pour faire un boulot, et on leur demande de venir bosser ici. Ils ont un super appart, on leur livre tout ce qu'ils veulent, simplement, ils sortent pas de la tour, ou en tout cas, ils sortent pas du quartier. Ça dure quelques mois, ils font le boulot, ils repartent. Payés à la tâche. Des cadors. Je te parle de ça, ceux qui travaillent sur le cœur, réellement, de Virzem. Moi, je travaille sur un jeu. C'est moins valorisant. Là, Andrzej sentait qu'il y était. Et puis, c'était ce soir ou jamais. L'autre avait beaucoup bu, Yuri, exceptionnellement, n'était pas dans ses pattes, et puis, l'enthousiasme, il venait toucher sa prime, il allait se lâcher. C'était le moment. Et vous les voyez jamais? Si, de temps en temps. Des fois, ils ont besoin de nous. Ils créent une team, dans ce cas-là. Le mec qui vient de l'extérieur, c'est un peu le patron qui va faire une partie du code. Et s'il a besoin de pisseurs de code, eh ben, on peut essayer de bosser avec lui. Alors là, je te raconte pas, hein. C'est pas 9 heures par jour, 6 jours par semaine. C'est à disposition. Tu récupères une piole, au moins 3, ou au moins 2, sur place, et tu bouges plus. Aussi longtemps qu'il faut, corvéable à merci. Par contre, si jamais tu t'en sors bien, après, en termes de hiérarchie, bah déjà, t'as arrêté de bosser sur des jeux. T'as bossé sur Virzem, lui-même. Tu peux grimper plus vite. Waouh. Il y en a beaucoup? Ouais, ça dépend. Il y en a certains, ils passent tellement vite, ou ils sont sur des courtes missions, on n'en entend jamais parler. Et puis il y en a d'autres. Tiens, je vais te dire, je pense à un en particulier. Lui, je sais pas ce qu'il fait, mais alors, vu le pognon qu'ils ont mis sur sa tête, ça doit être un truc de malade.